Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Merci patron.
Bonjour, je vous présente aujourd'hui donc la chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail. Si je dis ça, c'est parce qu'elle est désormais diffusée au niveau départemental et pas seulement dans le secteur de Quélus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des jobs d'été et l'arrivée de la période estivale m'en donne évidemment l'occasion sur ce qu'on appelle les jobs d'été, mais en réalité, qui sont des contrats à durée déterminée et assez fréquemment aussi des contrats à temps partiel, les deux pouvant être cumulés. Alors il y a deux légendes qu'il faut combattre. La première qui est celle de considérer que parce que c'est un boulot provisoire, les obligations générales du Code du travail ne devraient pas s'appliquer, c'est évidemment faux. Et celle de croire, et si je dis ça, c'est parce qu'on l'a encore entendu ces jours-ci à la télé, que dans la restauration, il y aurait pénurie de main-d'œuvre. En fait, s'il y a pénurie de main-d'œuvre, c'est tout simplement parce que les conditions sont créées pour que finalement les gens refusent de travailler en n'étant même pas payés au SMIC pour le nombre d'heures qu'ils font, travailler le week-end, le dimanche, le soir sans compensation, etc. Donc commençons par faire respecter la loi dans la restauration et on trouvera du monde. Alors un autre secteur que je voulais pointer également, c'est celui du travail saisonnier dans l'agriculture. Là c'est le Moyen-Âge, puisqu'en préparant cette chronique, je me suis aperçu qu'on pouvait toujours payer les gens en dessous du SMIG légalement. Alors déjà, pour les saisonniers dans l'agriculture, on peut commencer à travailler à 14 ans, donc c'est le Moyen-Âge, et payer 20% au-dessous du SMIG. Mais même lorsqu'on est majeur à 18 ans, eh bien, il y a un abattement de moins 10% pour le SMIG. Et il y a aussi des choses qui ne s'appliquent pas alors que ça s'applique partout ailleurs, comme les repos compensateurs ou l'indemnité de précarité qui n'est pas due. Quand vous êtes saisonnier dans l'agriculture, c'est d'exception. Et on doit dire un grand merci pour cela à la FNSEA, qui, on l'oublie souvent, est aussi un syndicat d'employeurs et donc qui est aussi responsable de ce Moyen-Âge. Alors, j'en reviens sur les contrats à durée déterminée après avoir pointé la restauration et l'agriculture, le cadre général. Alors, pour ce qui est du contrat, pour ce qu'on appelle les CDD, contrats à durée déterminée, hein, et qui sont les jobs d'été, en fait, hein, eh bien, le contrat de travail est obligatoirement écrit. Hein, et bien sûr, il est remis au début de la période de travail, comme c'est également obligatoire pour les temps partiels. Vous devez en avoir un original signé des deux parties. Alors, en ce qui concerne toujours les contrats à durée déterminée, eh bien, la fin de ce contrat doit être mentionnée avec une date précise ou un événement précis. Alors, l'événement précis, ça peut être le retour de la personne que vous remplacez. Et en ce cas-là, le nom et sa qualification doivent figurer sur le contrat faisant état de son retour prochain. Alors, rien n'interdit de prolonger un contrat à durée déterminée, mais en ce cas, il faudra rédiger soit un nouveau contrat, soit un avenant en reprécisant toutes les obligations nécessaires. Alors, un mot sur les congés payés pour les CDD. Eh bien, ces congés payés restent dus. Alors, s'ils ne sont pas pris, ils se transforment en une indemnité sous forme de prime, en quelque sorte, indemnité de congés payés, qui est calculé simplement, c'est tout simplement 10% de la totalité de la période travaillée. Un mot aussi sur le repos hebdomadaire, c'est pareil, il reste dû sur les mêmes règles classiques. Dans certaines professions, il peut être déporté ailleurs que le dimanche, en particulier dans la restauration ou les activités de loisirs, mais il doit être minimum d'une journée et demie. Chaque semaine, ça ne doit pas être différent. Différent de tout ce que dit la loi sur le repos hebdomadaire. Alors je reviens sur l'indemnité de fin de contrat qu'on appelle aussi souvent indemnité de précarité. Elle est de 10% de la rémunération brute totale Et il ne faut pas la confondre avec l'indemnité de congés payés. Donc, si vous suivez bien, c'est 2 fois 10%, une fois pour les congés payés non pris et une fois pour l'indemnité de précarité calculée de la même façon, 2 fois 10. Les obligations du contrat sont classiques. Alors, j'en cite quelques-unes. Citer la convention collective applicable, citer la durée de la période d'essai, citer le montant de la rémunération, y compris le cas échéant des primes accessoires, et aussi le nom de la caisse de retraite et des organismes de prévoyance. Si je le dis, c'est parce que on s'aperçoit assez fréquemment que ça n'est pas fait. Alors, on a désormais, de par la loi, une complémentaire santé, eh bien également, ça doit être cité, aussi pour les temps partiels et les CDD, il n'y a pas de différence. À la fin du contrat, donc à la fin de ce job d'été, et sans délai, on doit vous remettre 3 documents, à savoir l'attestation Pôle emploi qu'on appelait avant l'attestation ACEDIC, le solde de tout compte avec les sous qui vont avec, et le certificat de travail qui doit entre autres citer le ou les emplois occupés. Donc tout ça sans attendre finalement la date de versement du salaire mensuel, c'est directement à la fin du CDD que vous devez percevoir tout ça et les sous qui vont avec. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu des temps partiels parce que c'est assez fréquent d'avoir les deux. On va retrouver l'obligation de rédaction d'un contrat de travail écrit, même pour un temps partiel qui n'est pas un CDD, avec par contre des précisions nécessaires sur la durée du travail. La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle doit être rédigée, ainsi que la répartition des horaires dans la période mensuelle ou hebdomadaire. S'il y a modification d'horaire, ça doit être écrit de la façon dont vous allez être prévenu et comment vous allez pouvoir être informé. À savoir que pour les temps partiels, par exemple, il ne peut y avoir plus d'une coupure par jour de plus de 2 heures. Si je dis ça, c'est parce qu'on a vu, par exemple, dans le nettoyage, donc on demandait à des gens de venir de bonne heure le matin, de revenir 1 heure en milieu de journée et de revenir le soir. Ça, c'est pas possible. Surtout pour ne être payé en dessous du SMIC. Alors, un mot sur les bulletins de salaire. Ils doivent respecter les obligations générales. Et si je dis ça, c'est parce qu'on constate assez fréquemment que ça n'est pas fait. Alors, je les cite pas tous, mais j'en cite quelques-unes où il est assez fréquent de s'apercevoir que les choses ne sont pas respectées. On doit avoir l'intitulé exact de l'employeur. On croit qu'on travaille pour l'entreprise Dupont. On s'aperçoit qu'on travaille pour l'entreprise Durand avec ses coordonnées. C'est pas si rare d'en s'apercevoir que finalement le nom, en tout cas usuel, de l'entreprise n'est pas le nom officiel. On doit avoir la référence des organismes de prévention et de sécurité sociale, de retraite, etc., qui doit être cité avec les adresses. On doit avoir le salaire dans toutes ses composantes, les heures réellement effectuées, pas les heures théoriques, mais celles qui ont été réellement effectuées avec, s'il y a lieu, évidemment, les majorations et les congés annuels cumulés doivent être notés, éventuellement ceux qui sont pris. Alors, en matière d'emploi, il y a bien sûr l'emploi, mais une autre chose importante, c'est la classification dans la convention collective qui doit être également être citée, ce qui vous permet de voir si par rapport à la grille de salaire de la convention collective, vous êtes sur le bon niveau. Alors attention, toutes les conventions collectives ne sont pas à jour, c'est pas un hasard en matière de grille de salaire, mais au moins vérifier que le minimum est respecté. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors c'est assez copieux, je l'avoue. Alors 3 conseils avant de terminer. D'abord, renseignez-vous sur les particularités éventuelles de la profession dès que vous avez le nom de la convention collective. Il y a des choses particulières à savoir, ça vaut le coup de les connaître. Le 2e conseil, notez sur un carnet personnel vos heures réellement effectuées. Ça évitera, en cas de litige, un certain nombre de problèmes. Donc, notez discrètement pour vous les heures réellement effectuées. On ne sait jamais, ça peut servir. Et mon 3er conseil, si vous avez le moindre doute sur votre déclaration effective, en fait qu'il ne s'agit pas d'un boulot non déclaré, eh bien, avec l'intitulé de la caisse à laquelle vous faites référence, soit sur le bulletin de salaire, vous pouvez le faire, soit tout simplement vous contacter l'inspecteur du travail qui, lui, a les moyens directement sur son ordinateur de vérifier que vous êtes bien déclaré. Alors, c'est assez copieux tout ce que je viens de vous dire. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette chronique en tapant Radio FM Les Temps Modernes et vous pouvez également en trouver des précédentes où j'avais traité spécifiquement de la question de l'URSSAF, de la question des congés payés, de la question des temps partiels, etc. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.
Les Temps Modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clélus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.